Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Une décision attendue et souhaitée, le nouveau pontife aborde le dossier de la réforme de la curie romaine. Après les turbulences et les critiques de ces derniers mois, des voix s'étaient élevées pour demander une révision du gouvernement de l'Église et une plus grande collégialité. Détail et analyse dès le début de cette émission. Ce dimanche, le pape François célébrera la messe à Saint-Paul, hors les murs, une des basiliques majeures de Rome. Ce samedi matin, il a invité les chrétiens à ne pas maquiller la vérité et à ne jamais mais prendre de raccourcis face aux problèmes de la vie. Dans ce magazine, nous parlerons également de l'Italie, engluée dans une profonde récession provoquée par une série de plans d'austérité, et de la colère en France des opposants au mariage pour tous. Sans oublier nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Un mois jour pour jour après son élection, le pape François a constitué un groupe de cardinaux chargés de le conseiller dans le gouvernement de l'Église universelle et d'étudier un projet de réforme de la Constitution apostolique Pastor Bonus sur la curie romaine. Promulguée en 1988 par Jean-Paul II, cette constitution avait réaménagé le fonctionnement de la curie romaine, c'était il y a 25 ans. Dans un bref communiqué publié ce samedi, la secrétaire d'État précise que cette décision reprend une idée émise au cours des congrégations générales qui ont précédé le conclave il y a un peu plus d'un mois. Le groupe de cardinaux conseillers comptera 8 membres, dont un seul appartenant à la curie romaine, plus un évêque secrétaire. Ils viennent de 8 pays des 5 continents. La première réunion collective du groupe aura lieu du 1er au 3 octobre, mais le Saint-Père est déjà en contact avec les cardinaux qui en font partie. Thomas Chabol.
Le pape François a choisi une date significative, l'anniversaire de son élection, pour faire cette annonce importante perçue comme sa première décision politique. Selon le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, ce choix est significatif. Il montre bien que le nouveau pontife entend tenir compte des propositions présentées par les membres du Sacré Collège pendant les débats qui ont précédé le conclave. Le chantier est de taille. Le père Lombardi a expliqué au cours d'un point presse que la nouvelle structure n'était ni un conseil, ni un comité, ni une commission, mais un groupe de travail. Cela peut permettre, selon lui, de mieux préciser avec le temps et au fil des réflexions la vraie nature du travail que ce groupe sera amené à accomplir. Les membres seront des consultants sans pouvoir décisionnel. Le père Federico Lombardi a par ailleurs coupé court à toute interprétation erronée de cette annonce. Il ne s'agit pas de réduire les compétences de la curie. Avec ses collaborateurs stables et permanents et avec les compétences qui lui ont été attribuées, cette dernière continue d'aider quotidiennement le pape à gouverner l'Église. En clair, ce groupe ne se substitue pas au chef des dicastères de la curie romaine qui regroupe une partie des instances dirigeantes de l'Église catholique. Du reste, le pape François continue de faire connaissance jour après jour avec les chefs de la curie qu'il reçoit à tour de rôle en audience privée. Si la première réunion n'est prévue qu'au mois d'octobre, c'est toujours, selon le directeur du bureau de presse, que le travail du groupe ne revêt pas un caractère d'urgence.
À propos de cette annonce importante, nous avons recueilli la réaction du journaliste et écrivain français Bernard Lecomte, qui a consacré de nombreux ouvrages au Vatican, dont Les derniers secrets du Vatican en 2012.
On se rappelle que pendant les congrégations générales qui ont précédé le conclave, la réforme de la curie est venue s'imposer dans les débats. Beaucoup de cardinaux du bout du monde, comme on disait à ce moment-là, voulaient que s'arrête cette série de scandales ou d'affaires comme le Vatilix, et imposait en quelque sorte au futur pape une réforme de la curie. Le pape François a évidemment entendu tout cela. On constate qu'il a choisi de ne pas se précipiter. Il aurait pu, après tout, changer quelques têtes, remanier spectaculairement deux ou trois dicastères pour montrer quelle était la voie. Non, il a choisi de faire un peu comme Jean-Paul II avait fait avec les finances du Vatican. Rappelez-vous, Jean-Paul II lui-même avait convoqué comme ça une quinzaine de cardinaux pour traiter le problème au fond. C'est ça qu'il faut souligner, me semble-t-il. Le pape François entend bien traiter le problème au fond, c'est pour ça qu'il prend son temps et qu'il prend la décision de ne pas gouverner tout seul. Il s'entoure des cardinaux, c'est plutôt bon signe pour l'avenir, mais ça ne nous étonne pas quand on sait que ce nouveau pape, en effet, est plutôt quelqu'un qui n'est pas un solitaire.
Quelles sont les pistes envisageables et envisagées pour réformer la curie romaine ?
C'est un peu tôt encore pour le dire, on sait bien que la curie, il va falloir la simplifier, il va falloir peut-être lui donner des objectifs un peu plus collectifs. On sait qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de la curie, c'est que chaque dicaster accomplit sa tâche dans son coin et qu'il y a très peu de relations horizontales entre les congrégations et les préfectures. Il reste encore à savoir quel sera le secrétaire d'État qui va piloter cette réforme. On imagine probablement qu'un nouveau secrétaire d'État sera nommé qui aura pour tâche de coordonner justement cette réforme de fond de la curie. On a remarqué que le pape François a reçu de façon très personnelle, très sympathique, comme il nous habitue, les personnels de la secrétairie d'État il y a quelques jours, les 300 personnes, il les a vues une par une. Donc on se doute bien que là aussi, il a quelques idées en tête.
C'est la réforme à partir de laquelle tout va pouvoir prendre son sens et être décidé. C'est la réforme principale qui était attendue, celle de la curie romaine ?
Non, je ne crois pas qu'il faille considérer la réforme de la curie comme la réforme principale du nouveau pontificat. Le nouveau pontificat a des objectifs, a des ambitions beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges que la simple réforme d'une administration, fût-elle en effet quelque chose d'important. La réforme de la curie est visiblement lancée. Elle n'est pas le but premier du nouveau pape. Le but premier du nouveau pape, c'est de relancer l'Église dans le sens de la mission, dans le sens d'une nouvelle évangélisation sur des bases innovantes. La réforme de la curie n'est jamais qu'une réforme secondaire. Il ne faut pas perdre de vue que l'essentiel du métier de pape, c'est quand même d'abord d'annoncer l'Évangile et non pas de réformer son administration.
Bernard Lecomte, interrogé par Olivier Tosserie. Et le pape François poursuit ses audiences et les nominations se succèdent. Le Saint-Père a ainsi nommé nonce apostolique en Libye, Mgr Aldo Cavalli, en poste à Malte depuis le 16 février. Lorsqu'il représentait le Saint-Siège en Colombie, Mgr Cavalli n'a pas manqué d'exprimer le soutien indéfectible de l'Église aux victimes de la violence. En Libye, il sera confronté à des problèmes d'un tout autre genre. Avec la montée des groupes islamistes, la situation des chrétiens devient difficile. Récemment, des chrétiens américains ont été arrêtés sous prétexte de prosélytisme. Des Coptes résidant en Libye ont été victimes de violences et plusieurs de leurs églises ont été incendiées. Fin janvier, plus de 100 Coptes ont été arrêtés à Benghazi. Certains ont été torturés. L'un d'entre eux en est mort le 9 mars. Selon Afrique.com, des prêtres catholiques ont été attaqués le 3 mars à Tripoli. Sur les lieux de la cathédrale, un tireur aurait raté l'un d'entre eux. Par ailleurs, l'église grecque orthodoxe à Tripoli est régulièrement attaquée. On le voit bien, la liste est longue. Ce dimanche, une semaine après son installation à Saint-Jean-de-Latran, le pape François présidera une concélébration eucharistique à 17h30 en la basilique Saint-Paul hors les murs. C'est une des quatre basiliques majeures de Rome, l'une des plus anciennes, construite à la fin du IVe siècle sur le cimetière où a été enterré Saint-Paul après son martyre. Située à l'époque hors de la ville de Rome, elle est aujourd'hui encore assez isolée, non loin du Tibre, sur la route consulaire qui mène à Ostie, le port de Rome. Elle a la particularité d'abriter depuis 1300 ans une communauté monastique bénédictine qui s'occupe notamment de l'accueil des pèlerins et des offices quotidiens. Cela fait donc un mois que nous avons un nouveau pontife, le 266e de l'histoire. Souvenez-vous, c'était le 13 mars. La fumée blanche était apparue à 19h06 et à 20h22, le premier pape a choisi le patronyme François était apparu à la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Depuis, il a su toucher les cœurs par ses gestes spontanés, chaleureux, par sa simplicité et son humilité, prêchant la miséricorde et la tendresse. Tous les matins, le pape François célèbre la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, où il continue de résider. Par petits groupes, les employés du Vatican ont le privilège d'y assister à tour de rôle et ses homélies ne passent pas inaperçues. Ce samedi, devant une assemblée composée de gendarmes, de pompiers et de religieuses filles de la charité, le pape François a appelé à ne pas maquiller la vie. Le chrétien, a-t-il dit, doit savoir accepter ce qui lui arrive, regarder bien en face les difficultés de la vie et en parler. Il ne peut pas emprunter de raccourcis face aux problèmes de l'existence. Il ne doit pas avoir peur, mais toujours faire confiance à Dieu. Et lorsqu'on se trompe, il faut savoir reprendre le droit chemin. Le Saint-Père a mis en garde contre les bavardages et les médisances qui ne mènent à rien. En plus bref, le président de la Conférence des évêques italiens réclame la constitution au plus vite d'un gouvernement stable, car la situation, dit-il, est grave. Le cardinal Angelo Bagnasco s'est exprimé vendredi à Gênes dans le cadre d'un congrès sur la doctrine sociale de l'Église face aux défis du XXIe siècle. L'Église, qui est proche de la population, constate que les gens sont épuisés et découragés, surtout en raison du chômage. Il faut faire vite et résoudre le grave problème de l'emploi qui débouche sur une crise sociale. L'Italie a besoin, selon lui, d'être dirigé par une personnalité équilibrée, estimée et de haut niveau. En France, la tension est montée d'un cran vendredi après le vote de la loi sur le mariage pour tous au Sénat vendredi matin. Le texte doit repasser devant les députés. À l'origine prévue au mois de mai, cette seconde lecture commencera finalement dès mercredi prochain. L'accélération du calendrier parlementaire a suscité la colère des opposants alors que l'UMP évoque le risque d'une confrontation violente. Vendredi soir, plusieurs milliers d'opposants ulcérés, 7500 selon les organisateurs, 2300 selon la police, ont une nouvelle fois défilé aux abords du Sénat, dénonçant une honte, un coup de force, une dictature. Ils se disent déterminés à poursuivre leur combat. La protection de la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme a été l'un des principaux thèmes de l'Assemblée plénière des évêques croates du 9 au 11 avril. Les débats ont porté également sur le scrutin qui se tiendra ce dimanche. Les Croates doivent élire leurs députés au sein du Parlement européen. Il s'agira des premières élections européennes en Croatie, qui est appelée à rejoindre le bloc des 27 en juillet. Les évêques croates ont appelé les catholiques à choisir leurs candidats à la lumière des principes évangéliques et à élire des personnes capables de défendre avec courage les valeurs chrétiennes dans le contexte européen actuel qui comporte, selon eux, de nombreuses problématiques sociétales. Livre pour Dieu, dans le cadre de notre rubrique hebdomadaire, nous vous proposons le deuxième volet de notre entretien avec Dan Borin-Gaël, auteur d'un livre sur François d'Assise, l'insoumis de Dieu. L'auteur, qui a découvert par hasard le Poverello d'Assise, va nous expliquer comment la partie féminine de Saint François a pu se déployer grâce à Sainte Claire. Elle est interrogée par Catherine Aubin.
Dan Borin-Gaël, le titre de votre livre, François d'Assise, l'insoumis de Dieu, la vie de Saint François écrite par une femme. Ce n'est pas ordinaire.
Je pense qu'il a tellement capté l'amour et tout ce qui était en clair, sa générosité, son désir d'absolu. J'ai pensé que c'était très important de relater cette chose-là. Parce que les hommes ont écrit des livres magnifiques sur François. Mais ce que moi j'ai ressenti, l'intensité en tant que femme, je l'ai ressenti d'une certaine manière et j'ai pensé que le visage de femme qui était le plus proche de François, ou peut-être même la partie féminine de son être, devait pouvoir aussi parler. Et je me suis fait un peu l'instrument de Chiara.
Vous êtes tombée un peu amoureuse de Saint François?
Oui, c'est ce que tous mes amis me disent. On me dit, mais écoute, c'était à tes prises là. Oui, tu as suivi une voie, c'est pas toi qui l'as décidé, c'est lui qui t'a pris. Bon, un moment dans mon livre, quand Chiara est encore petite et qu'elle écoute jouer de la musique dans la rue et qu'elle dit « je n'avais pas encore connu la douceur d'aimer ni la douleur de perdre ». Je crois que ça peut résumer un peu toute la démarche féminine de mon livre en tout cas.
Vous pouvez nous en dire davantage ?
Oui, je pense que lié à une rencontre qu'on peut faire, que ce soit une rencontre humaine ou une rencontre spirituelle, on a cette découverte merveilleuse dans laquelle on est emmené par cette rencontre. Et la douceur d'aimer, bon, bien sûr, ça donne un plaisir, ça donne le plaisir du partage. C'est un petit peu le merveilleux avec lequel on se réconcilie, parce que la vie n'est pas facile. Le fait de pouvoir aimer, de pouvoir recevoir et s'ouvrir à un don, eh bien, je pense que c'est ça, la douceur d'aimer.
Comment avez-vous décidé décrire cette vie de saint François.
Tout à fait par le hasard, si on veut parler de hasard. Ce que j'appelle le hasard ici, c'est un livre de Julien Green qu'on m'avait prêté et qui m'a bouleversée. Et de pas en pas, j'en ai lu d'autres. Et puis j'ai pris des notes et je me suis rendu compte que j'avais moi aussi quelque chose à dire, notamment de Chiara, quelque chose qui n'avait pas encore été dit. J'ai voulu remonter ces passerelles pour aller de l'autre côté, qui était écrire moi aussi et témoigner de tout ce que j'avais rencontré, ce que j'avais vécu intérieurement en découvrant François et son monde.
Voilà. Et vous avez découvert intérieurement et je crois aussi que vous êtes allé à Assise.
Mais oui, il faut pouvoir relier une personne à ses racines. Il y a énormément de choses à faire quand on découvre quelqu'un. Oui, il faut pouvoir respirer avec lui. C'est peut-être un peu trop intense ce que je dis, mais il faut pouvoir, du point de vue des sens, entendre, voir, toucher, marcher, goûter, sentir tout ce qu'il a vécu et toutes ces choses qui sont intangibles. Parce que sentir les pierres, les rochers qu'il a touchés. Moi, j'étais à Assise pour respirer l'air d'Assise. Mais François, il est allé à Nazareth, il est allé à Jérusalem pour ressentir aussi, se sentir plus près de la vie de son Seigneur.
Le livre de Dan Borin-Gaël, François d'Assise, L'insoumis de Dieu, est publié aux éditions Fidélité. Et il est temps de retrouver le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile de ce 14 avril, troisième dimanche de Pâques. C'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. Jésus se manifeste aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. À trois reprises, il demande à Simon-Pierre « Est-ce que tu m'aimes ?»
L'évangile de ce troisième dimanche de Pâques raconte la deuxième apparition de Jésus après la résurrection. Il permet de mieux découvrir la figure de Pierre. En premier lieu, Pierre est le pasteur de l'Église sur qui la grâce repose. Pierre est là, au bord du lac de Tibériade, avec quelques disciples. Il dit « Je m'en vais à la pêche » et tous répondent « Nous allons avec toi ». Il passe cependant toute la nuit sans rien prendre. Pierre est donc bien à la tête de ce groupe car tous lui obéissent. Mais son action, pour l'instant, demeure stérile. Aucun poisson n'est pris. Pour que la décision de Pierre puisse porter du fruit, il faut qu'elle soit une réponse à une parole de Jésus. Ainsi, lorsque Jésus les interpelle et leur dit « Jetez le filet à la droite de la barque et vous trouverez », alors le filet est tellement plein qu'il n'arrive pas à le ramener. Cette pêche miraculeuse nous apprend donc que Pierre exerce une réelle autorité sur les disciples, mais aussi que cette autorité porte du fruit parce qu'elle est une réponse à Jésus. En second lieu, Pierre demeure un homme simple avec ses limites. Il est touchant de voir Pierre ne pas reconnaître Jésus. Il faut que ce soit Jean qui le lui indique. C'est le Seigneur. Pierre écoute le disciple avec lequel il avait déjà couru vers le tombeau vide et réalise aussitôt que Jésus est en train de leur apparaître. Il s'habille et se jette à l'eau. L'inverse eût été plus logique. Avant de se jeter à l'eau, on enlève généralement ses habits. Mais Pierre est bouleversé. Il veut paraître devant Jésus en tenue correcte. Enfin, alors que Jésus a demandé aux disciples s'ils avaient eu un peu de poisson, c'est finalement lui qui les accueille avec du poisson braisé. Personne ne dit rien, ni ne demande à Jésus qui il est. Jésus leur enseigne ainsi qu'il a besoin d'eux pour être pêcheurs d'hommes, mais que c'est lui-même qui les nourrira, leur donnera la grâce d'accomplir ce ministère. Enfin, Pierre est appelé à donner sa vie jusqu'au martyre. Jésus commence par lui faire comprendre qu'être à la tête du troupeau signifie avant tout aimer Jésus. Il lui demande par trois fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» L'autorité qu'est appelé à exercer Pierre est donc, avant tout, fondée sur l'amour de Jésus. C'est parce que Pierre donne sa vie à Jésus par amour qu'il peut paître ses agneaux. Remarquons bien que Jésus dit « Paie mes agneaux », c'est-à-dire « Donne à manger à mes agneaux, nourris-les ». Les agneaux, c'est-à-dire chacun de nous, demeurent la propriété de Jésus. Mais c'est Pierre qui en a la charge. Cet amour de Pierre pour Jésus devrait être authentique au point d'accepter même le martyre. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas. En ce dimanche, rendons grâce à Jésus qui a fidèlement donné un successeur à Saint-Pierre jusqu'à nos jours. Prions aussi pour que le pape aime Jésus par-dessus tout. C'est ainsi qu'il pourra mener à bien sa tâche et que la pêche sera abondante.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet à l'adresse www.radiovaticana.va ainsi que sur Facebook et Twitter. Bon dimanche à tous.